Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous. Le 17 juin 2026, aujourd'hui, à une semaine de la fête nationale, et on entend la tasse, en stéréo. Daniel, vous voulez qu'on sache que vous êtes en studio matin?
Oui, je me manifeste.
Et vous allez vous manifester mieux encore si vous mettez le micro devant votre bouche.
Oui, je suis en train de placer tout ça.
Bon, alors, parlez-nous donc de vous, là, comment ça va?
Ça va très bien.
Oui, il me semble que ça fait longtemps qu'on vous a pas vu.
Oui, en fait, je pense que ça fait 2 mois.
franchement...
Mais faut, à ma défense, je dois dire que maintenant que je fais une chronique par mois, si j'en saute une, c'est sûr que ça fait un délai assez long.
On s'ennuyait, là. On commençait se sentir délaissé.
Il m'est arrivé toutes sortes de trucs au printemps, toutes sortes de choses qui ont bousculé nos horaires. Il y a des choses qui étaient prévues, mais qui ne se sont pas faites dans le temps prévu. En tout cas, bref.
Avez-vous le temps d'aller au party du 80e anniversaire de Michel Richard?
Non, mais je vais vous en parler.
Je ne sais pas s'il y a eu un party, mais j'imagine qu'on l'a souligné.
Oui, oui, mais je vais vous en parler aujourd'hui.
Pas du party, mais d'elle.
D'elle, oui.
Toute
une carrière. Puis c'est un peu un hasard, mais vous m'aviez fait remarquer justement qu'il y avait eu un article dans la presse pour souligner qu'elle aurait 80 ans cette année. Et moi, suite à ça, j'avais prévu parler de Dennis Pantis, parce que sa carrière à Michel Richard est très liée à lui au début. Et là, j'ai regardé le documentaire Jukebox. C'était très intéressant. Oui. Je vous le conseille à tout le monde.
Je vais en
parler un jour parce que ça vaut vraiment la peine.
Très bien.
Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses quand même à dire sur Michel Richard. Je vais garder.
Ah oui, hein, parce que vous aviez pensé faire un genre de combo avec Ginette Reno, mais ça sera pour une autre fois parce que Ginette Reno aussi a eu 80 ans, ainsi que Plume la Traverse.
Oui, donc ça fait trop pour un seul sujet,
Alors,
je vais revenir.
Puis Michel, c'est la reine, alors on se concentre sur elle.
On commence avec elle.
Merci. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Et au bout du fil, j'espère qu'elle va bien, Isabelle Falardeau.
Oui, bonjour.
Vous nous amenez dans les patates ce matin.
Oui.
Oh! On dirait que vous êtes dans un champ en dessous des patates.
Ah, vous ne m'entendez pas bien?
Ah, là, ça va.
J'ai le même... OK. Bon, j'ai rapproché le téléphone.
Alors, présentez-nous votre sujet.
Oui, c'est ça. Je suis Madame Patate, puisque j'adore les pommes de terre. Et ça ne va pas bien.
Non?
Ça brasse dans la pomme de terre en ce moment. Oui.
Bon, alors, vous allez tout nous expliquer ça?
Exactement. C'est principalement en Belgique. En Europe, principalement en Belgique, qui est la capitale mondiale de la frite. Mais c'est ça, il y a des surplus, les ventes baissent.
Plus de détails tantôt, Isabelle.
Pourquoi et comment, oui.
Super, merci beaucoup. Et puis, on parlera de Michel Richard avec Daniel Lachance, qui est de retour avec nous. On salue Serge Bradet, qui est probablement à l'écoute, qui filait pas trop ce matin, Serge, mais il sera de retour incessamment. Pas la semaine prochaine, parce qu'on sera en congé, mais le 1er juillet, nous serons ouverts. Avez-vous intéressé? La chronique Psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière, c'est autour de 10h30. Et c'est pas mal ça, je pense. Ah oui, on aura des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Bonne journée.
Thank you. Amour stéréo, une chanson de Renzo Rivolta.
Oui, avec les R bien grasseillés. Merci Mathieu. En cette journée du 17 juin, voici les unes, la une du Journal de Montréal. D'abord, sondage léger, le journal. Déjà des promesses et des propositions. Intention de vote au provincial. La campagne électorale commence et tout peut arriver. 30 % ce sont le pourcentage qu'a reçu les intentions de vote pour Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du PQ. 27 % Charles Milliard, qui est le chef du Parti libéral, 21 % pour Christine Fréchette de la CAQ, 13 % au conservateur d'Éric Duhem et 8 % pour le Québec solidaire de Sol Zanatti et Ruba Gazal. Autre titre à la une du Journal de Montréal, encore des projets à 101 ans. Jeannette Bertrand annonce qu'elle a retrouvé la santé. J'ai été malade en Martinique et je n'ai pas pu revenir. Elle avait des problèmes pulmonaires, mais tout ça est passé. Tout ça s'est passé. Je suis tout à fait en forme maintenant, déclare celle qui avait dû se désister du Salon du livre de Québec en avril. Oui, j'ai fait quelque chose au poumon en Martinique, mais j'ai été soignée et c'est passé complètement. Ça va bien, très bien même. Je suis dans un renouveau. J'ai eu des petits malheurs, mais je ne m'attends pas aux bobos. Je m'y attends. Ce n'est pas normal de vivre si vieux que ça, mais je ne veux pas devenir une maladie, poursuit Jeannette Bertrand, qui explique que ce sont ses nombreux projets qui la gardent en forme. Parmi ceux-ci, une série de capsules destinées aux aînés, souvent isolés, qui sont mises en ligne depuis hier. Après avoir lu plus de 2400 biographies pendant la pandémie, Jeannette Bertrand a de nouveau reçu des milliers de lettres dans lesquelles les personnes âgées nommaient les sujets qui les inquiètent. Avec les professionnels de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, elle aborde des sujets comme l'arthrite, les proches aidants, l'Alzheimer, l'incontinence, car pour Jeannette, il n'y a jamais de sujet tabou. Et aussi, on apprend qu'elle écrit actuellement son prochain livre qui traitera de l'amour. Elle en connaît quand même pas mal sur le sujet. Et puis, à la une du Devoir, les dirigeants du G7 se mettent à table. Un micro ouvert dans une salle de réunion au G7 a permis de capter mardi le premier ministre canadien Mark Carney en train de défendre son accord avec la Chine sur les véhicules électriques auprès du président américain Donald Trump. Cette entente avec Pékin est un important point de friction avec la Maison-Blanche. Par ailleurs, M. Carney a annoncé que le Canada imposerait une nouvelle série de sanctions contre Moscou. Il en a fait l'annonce en marge d'une rencontre bilatérale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la deuxième journée du sommet du G7 qui se déroule à Évian en France. Et puis, toujours à la une du Devoir, des patients luttent contre leurs troubles intestinaux sans l'aide de Québec. Ils réclament que le gouvernement couvre un appareil médical qui est essentiel à la gestion de l'incontinence ou de la constipation. Et puis, à la une de la presse, plusieurs titres, on parle de ce qui est arrivé à Montréal-Nord et qui continue de faire parler, évidemment, d'allégations de racisme au SPVM. Qui peut garantir que ça n'existe pas ailleurs au Québec? C'est Suzanne Colperon qui a rencontré le président du sommet Jeunes Afro, Édouard Stacco, qui réclame à son tour une enquête publique sur la police. On prend maintenant des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Comme première nouvelle, la culture francophone à risque d'être sous-financée.
Le comité permanent du patrimoine canadien, Chambre des communes, étudie présentement l'état des espaces de création au Canada. Puis là, on ne parle pas juste des espaces francophones, on parle de tout en anglais aussi. La Fédération culturelle canadienne-française était au comité la semaine dernière, puis ses représentantes ont fait valoir leur crainte de voir le financement des institutions culturelles francophones être relégué au second plan. Pourquoi ils pensent ça? C'est que le Fonds du Canada pour les espaces culturels qui est géré par Patrimoine canadien, a été modifié récemment, puis on n'accepte plus de soumission pour les infrastructures culturelles, c'est-à-dire on ne peut pas faire de demande pour la construction ou rénovation de salles de spectacle ou même des plans pour des infrastructures de ce genre-là. Cette responsabilité-là a été donnée au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, qui est un fonds relativement bon, renommé ou qui est nouveau. Puis dans ce fonds-là, les établissements culturels se retrouvent en compétition avec toutes sortes d'autres infrastructures, incluant par exemple des ponts. C'est pas que les ponts sont moins importants que la culture ou vice-versa, ce que nous dit la Fédération, bien au contraire, mais il n'y a aucune instruction sur le partage des fonds. Ce que demande la Fédération, c'est non seulement de réserver une partie de ce fonds-là pour les infrastructures culturelles, mais aussi de réserver une autre partie pour celles qui sont destinées aux minorités linguistiques.
Bon, alors ça prend des ponts culturels.
Oui, c'est ça, exactement.
L'Acadie en quête de son autonomie institutionnelle, on en parle dans l'Acadie Nouvelle.
Oui, je l'ai mentionné que les États généraux sur l'Acadie s'en venaient, puis ça a eu lieu cette fin de semaine à Edmundston. Puis la rencontre a été préparée par un groupe d'Acadiens, là, mené entre autres par le sociologue Joseph-Yvon Thériault, un groupe qui s'inquiète un peu de la situation de l'Acadie et de la langue française au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes. Le constat principal de la rencontre, c'est que l'Acadie du Nouveau-Brunswick doit viser l'autonomie institutionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est tout simplement le droit et le besoin de contrôler tous les éléments qui peuvent faire partie de la culture acadienne, soit du principe de vivre en français ou tout ce qui assure l'avenir de l'Acadie. On peut prendre en exemple les écoles qui sont déjà sous le contrôle des minorités linguistiques. Le gouvernement donne l'argent au conseil scolaire francophone, puis eux décident de la façon de s'en servir. Donc, on donne cet exemple-là. En exemple, on donne aussi, on pourrait ajouter ce principe-là, cette façon de fonctionner-là, pour les droits linguistiques, pour la petite enfance, pour l'économie, la culture et même la santé. Ce qu'on se donne après les États généraux, on s'est donné 10 ans pour faire avancer cette question-là de l'autonomie institutionnelle. Comme le dit le nouveau président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Gérald Arsenault, ça va être un travail de longue haleine, sans compter que tous les détails qu'il y a à régler pour savoir ce que ça inclut exactement, cette idée d'autonomie institutionnelle.
Vous avez commencé la chronique avec la culture francophone à risque d'être sous-financée et maintenant vous parlez de l'Université de Sudbury qui est à haut risque de perdre des étudiants.
Oui, parce que les étudiants de cette université-là se retrouvent dans une drôle de situation où il est possible qu'ils ne puissent pas faire demande au régime d'aide financière étudiant de l'Ontario pour leur étude l'année prochaine. Même si l'université reçoit du financement de la province puis qu'elle est mentionnée dans le budget qui a été présenté ce printemps, l'Université de Sudbury n'a pas été inscrite dans la liste des établissements admissibles au régime. C'était pas un problème pour la première année parce que l'université avait décidé de donner des bourses qui, dans le fond, payaient pour les frais d'études des étudiants pour la première année, sa première année d'ouverture d'ailleurs aussi, mais n'a pas l'intention nécessairement de le faire pour les prochaines années. Et puis si c'est pas réglé, donc l'université pourrait perdre des inscriptions à cause des étudiants qui ne peuvent pas se permettre de s'inscrire sans une aide financière du gouvernement. Du côté des associations francophones, mais aussi bien l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario que la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne dénoncent la situation. On ne comprend pas pourquoi les étudiants sont inadmissibles puisque le gouvernement a accepté de financer l'université. Puis du côté du gouvernement, ben on est conscient du problème, on dit vouloir tenter de le régler rapidement pour que les étudiants puissent faire une demande pour l'année prochaine.
On le souhaite. L'enseignement post-secondaire en français prend un nouveau tournant dans le Nord.
Oui, on reste dans l'enseignement, peut-être une meilleure nouvelle. On a une meilleure idée de la forme que pourrait prendre le projet d'établissement post-secondaire pour les francophones du Nord canadien. Le Collège nordique au territoire du Nord-Ouest est le seul établissement post-secondaire francophone au nord pour les territoires. Puis, on voulait voir comment il pourrait étendre son offre de services au Nunavut et au Yukon. Dans l'état actuel des discussions qui ont avancé la semaine dernière, ce qu'ils ont décidé, c'est d'utiliser vraiment le Collège nordique comme base, puis d'ouvrir les services et le conseil d'administration pour mieux prendre en compte et mieux représenter les besoins des francophones des deux autres territoires. Ça va amener le collège à se transformer un peu puis intégrer, entre autres, les départements de formation qui sont déjà présents dans les associations francophones du Nunavut et du Yukon. Puis on espère aussi avoir des campus dans les deux autres territoires, là, un endroit physique, que ce soit pas seulement des cours offerts de façon virtuelle. C'est donc juste une autre étape de franchie là, dans la réflexion. Là. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que les trois organismes qui participent à cette réflexion-là doivent aller voir les gouvernements de leur territoire pour voir s'il y a une ouverture pour la transformation.
Et pour conclure, vous nous parlez de la patente qui pourrait être reconnue comme un événement d'importance historique nationale. Qu'est-ce que cette patente?
Oui, si vous avez besoin d'un aide-mémoire. Un aide-mémoire, la patente, c'était le nom utilisé pour parler de l'ordre de Jacques Cartier sans le nommer. L'ordre de Jacques Cartier, c'est un ordre secret qui a été créé en 1926. Puis c'était pour les francophones, pour que les francophones du Canada gagnent un peu de pouvoir parce que les anglophones contrôlaient pas mal tout à cette époque-là, puis les francophones étaient mis de côté. Ça incluait aussi bien les Québécois que les francophones du reste du pays. Là, il n'y avait pas de frontières du moins au début, dans cette organisation-là. Vraiment, les premières rencontres des premiers membres de l'Ordre de Jacques Cartier ont eu lieu dans le presbytère de l'église Saint-Charles-Borromée, dans le quartier Vanier, juste à côté du centre-ville d'Ottawa. Il y a une résidente de Vanier, Joanne Leroux, qui a rédigé une demande à Parc Canada pour que la patente soit reconnue comme un événement historique national, puis avec son but, c'est d'avoir une plaque proche de l'église ou du presbytère qui parle de l'histoire de l'ordre de Jacques Cartier. Parce qu'elle était un peu surprise que ça ne soit pas le cas, qu'il n'y a pas déjà une reconnaissance nationale.
Ben oui, même on la comprend.
Ben oui, mais c'est ça. Puis même si l'ordre a été démantelé en 1965, c'était un ordre secret, mais bon, son existence n'est plus secrète.
Non.
Puis l'influence qu'il a eue non plus, ça n'est plus. Fait que faut juste attendre que Parc Canada prenne sa décision, ce qui peut prendre quelques mois ou quelques années. Il va falloir être patient.
Oui. Alors, sur cette patente, je vous dis merci. Et puis, bonne semaine. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais le 1er juillet. À bientôt, Julien.
Je vous attendrai patiemment.
Bonne semaine. On y compte bien.
J'ai mangé trop de patates frites. J'ai vu le fond du cornet. Tout est arrivé si vite. Et maintenant j'ai des regrets. Quand mon corps m'envoie des signes, je ne l'écoute jamais. La peau comme un élastique. Un grand écart de l'abdomen. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop, 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 trop de patates frites. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi elles me font cet effet. Accro comme un alcoolique, assez croustillant bâtonnet. Chaque fois que je le fais, je deviens un peu plus paquet, bien paquet. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop, 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 trop.
Trop de patates frites, mais c'est tout à fait le titre, ou presque. Trop de pommes de terre dans la capitale mondiale de la frite. Alors, il faut en manger des patates frites s'il y en a trop.
Mais oui, il faut se sacrifier pour la cause. C'est ce que je fais.
Oui, donc, ah oui, c'est tellement bon.
Alors, on nous parle du fait que l'Europe croule sous les patates, mais le déséquilibre entre l'offre et la demande s'est surtout fait sentir en Belgique. En fait, c'est un article qu'on a trouvé dans Le Devoir, mais qui est en fait traduit d'un article du New York Times, signé Jenny Gross. Donc, moi, l'article que j'ai vu est paru le 9 juin dernier. Donc, on commence par nous parler de l'entrepôt de la ferme de Chris Deyer, où pendant des mois, un millier de tonnes de pommes de terre se sont entassées jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres ou 15 pieds.
Ah, une montagne.
Où deux joueurs de basketball, un par-dessus l'autre, là, pour ceux à qui ça dirait de choses.
Oui, c'est haut. Donc, longtemps.
C'est très haut. Même offerte à quelques euros la tonne, elles n'ont trouvé aucun acheteur. Et donc, il a dû se résoudre à faire l'impensable. Et ce mois-ci, il a déversé sa récolte dans ses champs de l'est de la Belgique. Donc, c'était la façon la moins coûteuse de se débarrasser d'une quantité de pommes de terre suffisante pour produire combien? 200 millions de frites.
Alors, ça en fait, ça, des cornets de frites?
Moi, j'aime tellement les frites. Ça me fait de la peine, oh, toutes ces pommes de terre-là gaspillées. Mais c'est pas... Et ça, on parle d'un seul cultivateur. C'est vraiment un problème. L'Europe croule sous un surplus de plus de 5 millions de tonnes métriques de pommes de terre destinées à la fabrication de frites.
Mais Daniel donc, dit, on ne l'a pas entendu
non,
trop.
Non, mais il y a du monde qui crève de faim, puis on voit des choses comme ça, c'est un peu absurde.
C'est ça. C'est incroyable, c'est insensé.
Ouais.
Et c'est ça, depuis des mois, donc le prix de la tonne métrique de pommes de terre sur le marché belge, donc qui est le plus grand pays exportateur de frites surgelées au monde, ça stagne exactement à zéro. Le prix est à zéro. Alors qu'il frôlait les 600 euros, donc environ 690 $ US, il y a 3 ans. Et cette grande surabondance de pommes de terre en 2026 s'explique par plusieurs facteurs, certains météorologiques et d'autres géopolitiques. Évidemment, on pense tout de suite à la guerre en Iran, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, le beau temps a permis la plus importante récolte européenne de pommes de terre en 8 ans. Donc, on commence par, évidemment, une très belle météo. On a plus de patates. Mais c'était un moment où les agriculteurs peinaient déjà à écouler leur production. Il y a les tarifs douaniers aussi, hein, imposés par le gouvernement Trump, qui avait frappé leurs exportations. Il y a des nouveaux concurrents asiatiques qui ont commencé à ravir des parts de marché. Et plus récemment, donc, la guerre en Iran qui a fait grimper les prix de l'énergie et des engrais. Donc, on pense évidemment à l'énergie, le transport, mais aussi les engrais qui coûtent plus cher. Et puis, on a aussi globalement réduit nos dépenses, hein, comme consommateurs. Tout nous coûte plus cher, alors on achète moins. Ça a encore donc comprimé les marges bénéficiaires qui étaient déjà aussi minces qu'une frite allumette, nous dit-on dans cet article. Mmh. Et donc, évidemment, c'est sûr que c'est mauvais, mais c'est la vie. Ça, c'est le cultivateur belge qui nous dit ça. Ces pommes de terre invendues avaient commencé à germer, donc il était rendu impossible de les vendre. C'est pour ça qu'il s'est résolu à les jeter. Il dit qu'il a environ perdu 160 000 euros. Donc, c'est quand même une grosse somme. Il doit maintenant puiser dans ses économies. Ça, c'est juste un cultivateur en Belgique. On nous parle aussi en Allemagne, qui est un autre grand producteur de pommes de terre. Il y a un agriculteur qui était pris avec 4000 tonnes de pommes de terre invendables. Lui, il a organisé une série de distributions gratuites à Berlin. Et les habitants ont surnommé ça la Kartoffelflutte ou inondation de pommes de terre. Donc là, au moins, on a un peu redistribué, comme vous le disiez, là, pour nourrir les personnes qui ont faim. Mais je pense qu'avec tous ces milliers de tonnes-là, ça serait difficile de
tout liquider
là où on a besoin avant qu'elles soient plus bonnes, malheureusement. Donc, évidemment, les frites, c'est un symbole national en Belgique où les friteries, donc ces petits comptoirs, ça, c'est le nom que les Belges leur donnent, donc des petits comptoirs où on vend des cornets de carton débordant de frites, c'est omniprésent sur les places publiques en Belgique. Et c'est vraiment, ça frappe là, au cœur de la Belgique. En 2025, la Belgique avait exporté pour 3,3 milliards de dollars de pommes de terre cuites et surgelées, ce qui était 3 fois plus qu'une décennie plus tôt. Alors, c'est peut-être un élément aussi, c'est que ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et évidemment, c'est difficile de maintenir un rythme de croissance d'une telle ampleur. C'est ça, la guerre en Iran, c'est la plus récente source. La hausse des coûts de l'énergie, ça fait aussi que la réfrigération et le transport sont plus chers. Il y a aussi, parce que évidemment c'est un très long article, je vous invite là, à aller le consulter sur le site du Devoir, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler au complet, mais il y a un élément qu'on a souvent mentionné ici, l'arrivée de plus en plus présente d'Ozempic et Wegovy, des médicaments qui sont utilisés pour le diabète, mais de plus en plus aussi comme médicaments amaigrissants. Et donc, on l'a dit, ces médicaments-là amènent souvent les gens à réduire considérablement leur apport calorique, mais aussi, ça calme notre envie d'aliments transformés et frits, comme les chips et les frites. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, parce que si ça nous fait mieux manger, évidemment, c'est meilleur pour notre santé. Mais ça aussi, ça contribue, mais de façon importante apparemment, à la baisse de vente de frites de façon globale. On dit que la demande mondiale de frites surgelées continue quand même à croître. Évidemment, la population croît, donc on mange plus, mais ça croît à 2,5% par année, alors que c'était 5% il y a 5 ans. Donc, ça commence à croître moins vite. Et il y a aussi les producteurs européens de pommes de terre, les producteurs comme la Chine, l'Inde et l'Égypte qui font la concurrence aux producteurs européens. Ils ont commencé à vendre des frites surgelées à des prix beaucoup plus bas. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question, est-ce qu'ils peuvent rivaliser sur le plan du goût? Mais il y a une étude qui a été faite l'an dernier sur des frites d'Europe, de Chine et d'Inde, et on n'a pas trouvé de vainqueur évident au niveau du goût. Donc, clairement, si on a un restaurant où les marges sont serrées et qu'on veut des frites, c'est sûr qu'on va aller chercher celles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Donc, il faut pas, malheureusement, là, il faut pas s'en remettre à la qualité des frites belges pour espérer garder la part du marché qui était celle de Belgique. Le Belgique, le plus grand producteur. Leur plus grand client, à part l'Europe, c'était les États-Unis. Les États-Unis ont imposé des tarifs. Et là, c'est ça, il y a les autres marchés qui leur font concurrence. Et un autre élément, là, en terminant, qui est mentionné dans l'article, c'est qu'il y a d'autres marchés, ces marchés-là, là, comme la Chine et l'Inde, ils sont moins réglementés. En Europe, il y a une très, très grande réglementation. Par exemple, des pesticides qui peuvent être utilisés dans la culture. Évidemment, ça, encore une fois, c'est bon pour la santé, mais on est quand même en concurrence.
Qu'est-ce qui est bon pour la santé, les pesticides?
Bien, c'est bon pour la santé d'avoir des lois qui réduisent
oui.
les pesticides.
Merci.
Mais ça fait en sorte que quand on se bat contre des pays qui n'ont pas les mêmes réglementations, bien évidemment, on ne peut pas offrir les mêmes prix.
Donc, très intéressant.
Ça fait en sorte que, c'est ça, disons que les cultivateurs perdent un peu de leur optimisme.
Comment vous les mangez, vous, vos frites, Isabelle? Ketchup, mayonnaise, vinaigre, moutarde?
ma trompette préférée, c'est simplement de la mayonnaise, mais la plupart du temps, je les mange simplement avec du sel parce que c'est juste bon comme
une
ça.
Bonne patate. Oui, ça n'a pas besoin d'autre chose. Vous, Daniel?
Exactement.
Ah, juste un peu de sel, effectivement.
Un peu de sel.
Oh, ouais. Nature.
Et vous, vos patates frites?
À la libanaise.
Ça veut dire?
Ça veut dire bouillir 2 minutes, cuit au four pendant 20 minutes à 425 et 450 pendant 10 minutes.
Trop
avec une sauce à la...
Ah oui? Ça fait des bonnes frites?
Ça fait des...
Merci Isabelle. Vous restez avec nous. On va en parler de Michel Richard avec... c'est Daniel là, qui a préparé une chronique sur cette grande chanteuse.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras.
La plus belle pour aller danser, c'est oui. Michel Richard, Daniel.
Michel Richard. Michel Richard, qui a aujourd'hui 80 ans et 2 mois.
Oui.
Parce qu'elle est née le 17 avril. On est le 17 juin aujourd'hui. Née le 17 avril 1946 à Sherbrooke.
À l'époque, je ne savais pas qu'elle était née à Sherbrooke.
Ouais,
je m'en souvenais plus.
Ouais, Sherbrooke.
Ouais,
dans
Sherbrooke.
Le temps, on disait Sherbrooke. moi, je demeurais à Granby, en plein milieu entre Montréal et Sherbrooke.
OK.
Fait qu'on avait accès au canal. C'était Télémétropole dans le temps à Montréal.
Canal 10,
oui. Oui, puis à Sherbrooke, c'était CHLT TV.
Monsieur Jean-Malo, nous autres, on était à Vaudreuil, puis quand on tournait les postes, il y avait toujours un peu de neige sur le canal de Sherbrooke.
Et Michel Richard était la fille, était un enfant unique, hein, je savais aussi. La fille unique du violonneux Tiblan Richard, de son vrai nom Adalbert. J'ai appris ça récemment. Je ne savais pas qu'il s'appelait Adalbert.
Elle aimait tellement son père.
Oui, c'était son idole, c'est sûr. Mais apparemment, Adalbert.
C'est sûr, c'est pas sûr. Mais en tout cas, dans son cas, oui.
Puis apparemment, Adalbert, il ne voulait pas que sa fille devienne une artiste publique.
Oui, parce que j'imagine qu'il y en
avait
mangé.
Parce que lui, il avait vécu ça. Hein? Il vivait encore aussi. Mais c'est sa mère, apparemment, qui l'a poussé. Sa mère voulait vraiment que sa petite fille devienne une vedette ou en tout cas qu'elle gagne sa vie.
Ça a commencé jeune pour elle, finalement.
Elle a commencé à écouter à 4 ans. Elle prenait des cours de ballet et de piano. Vraiment, je trouve que c'était comme... Je pense qu'elle n'a même pas maternelle encore. Là, puis... fait que, en tout cas, je trouve que les parents, des fois, poussent un peu. Là. Et à 10 ans, elle a débuté à l'émission de son père. Son père, il avait une émission à Sherbrooke, CHLT, qui s'appelait Tiblan Richard, tout simplement, je pense. En tout cas, Tiblan.
Oui.
Je me souviens, je pense...
Tiblan, c'est Adalbert.
Oui. Fait que je me souviens vaguement de ça. Je pense qu'il y avait du monde qui écoutait ça chez nous. Ma grand-mère, peut-être.
Sûrement.
Ou je ne sais pas, ma mère. Et en 1958, donc elle a 12 ans, elle a enregistré une chanson originale, que j'ai trouvé ça par hasard un peu, là, mais en cherchant pas mal, finalement. L'auteur-compositeur Pierre Jean, ça me disait à rien, mais en tout cas, c'est lui qui aurait écrit la pièce « Main dans la main », qui est devenue un grand succès pour elle. Et j'ai vu deux versions différentes. Il y a une place qui dit 1958, puis il y a une place qui dit 1960. Mais je pense que 1960, c'est le moment où ils ont réalisé qu'elle avait vendu 25 000 copies de ce disque-là. Fait que ça partait quand même assez fort. Et au début des années 60, elle a commencé à collaborer avec Dennis Pentis.
Oui, le producer, le producteur. C'est un producteur.
C'est un... Ben, oui, on peut appeler ça de même, parce qu'il faisait tout, dans le fond, là. Parce que vraiment, il amenait large, là.
Il écoutait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis.
Il écoutait beaucoup. Vous avez visionné le Jukebox, le documentaire que je conseille à tout le monde. Si vous voulez comprendre un peu l'histoire de la musique pop au Québec, dans le fond, là. Mais vraiment, là-dedans...
Les débuts, là.
L'époque jeunesse d'aujourd'hui, tout ça. Dennis Pentis, il prenait de la place.
Il ratissait large.
Mettons, il prenait toute la place. On peut même dire ça, comme ça. Donc, elle a commencé à travailler avec lui. Elle a enregistré un album qui s'appelait Twist, tout simplement, parce que c'était à la mode, hein, le Twist.
Pas Chubby Checker.
Non, juste Twist. Et j'ai regardé la liste des chansons sur cet album-là. Il n'y en a aucune qui me disait quelque chose.
Ah, non?
Je ne me souviens pas du tout, mais ça s'est quand même vendu apparemment à 100 000 exemplaires. C'est presque phénoménal, je dirais, pour l'époque.
Elle a connu du succès.
Rapidement, ça a monté très vite. Et en 1962, elle a enregistré « Quand le film est triste ». C'est devenu un succès très rapidement aussi. Puis je pense que tout le monde l'a déjà
connu.
On va écouter un petit extrait tantôt, vous allez voir. Et ça, c'était la traduction de « Sad Movies Make Me Cry » de Sue Thompson en 1961. À l'époque, au Québec, on entendait les traductions, les versions francophones, mais souvent les originales.
Pour acquis que c'était la chanson originale.
Parce que les versions originales, on les entendait jamais habituellement. Donc, quand le film est triste, on s'en souvient, mais l'original, on ne sait pas. Et en février 1963, elle a 16 ans à l'époque, elle a fait ses débuts sur scène au cabaret Casaloma. Je pense qu'un nom
très connu. Dans le centre-ville,
hein? Je ne sais pas c'est où, je ne suis jamais allé. Et apparemment... elle gagnait à ce moment-là 600 $ par semaine, alors que le salaire hebdomadaire moyen était d'environ 80 $
Est-ce qu'elle avait négocié elle-même?
Je ne sais pas qui a négocié pour elle, là, mais c'est quand même
assez impressionnant.
Elle faisait beaucoup d'argent à cette époque-là.
Toute jeune.
Oui, là, c'était vraiment parti pour elle. Cette année-là, elle a été élue.
Elle n'en donnait pas 500 à Dependent?
Je ne sais pas combien elle donnait à Dependent. peut-être qu'elle en donnait beaucoup à Tiblan et à sa mère aussi, oui, j'imagine.
Mais
à son
la connaissant,
âge.
Elle a une personnalité quand même assez forte. Mais j'imagine qu'il s'est développé avec le temps.
Oui, il s'est développé avec le temps. Elle était quand même encore très jeune. Et cette année-là, 63, elle a été élue découverte féminine de l'année au Gala des artistes. Je ne sais pas si
l'équivalent... C'était les artistes ou les artistes?
Les artistes, à D'accord. l'époque, oui. Et je ne sais pas, à cette époque-là, peut-être que c'est ce qui est devenu le gala de la disque, ou mais le gala des artistes, peut-être ça couvrait plus large que seulement la chanson.
Ou le gala artiste.
Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a plusieurs galas aujourd'hui qui découlent de celui-là. Oui. Mais quand même, cette année-là, elle a été découverte. Et en 1964, là, ça a été vraiment...
Ça a décollé
bien fort. Là, elle était toujours avec Dennis Pentis. Je pense que c'est un incontournable. Pas sûr qu'elle avait le choix de travailler avec
Mais
quelqu'un
Mais ça fonctionnait,
là.
En tout cas, pour elle.
Ça fonctionnait. Ouais. Donc, cette année-là, elle a lancé « Je suis libre », qui était une adaptation de « You don't own me » de Leslie Gore, « La plus belle pour aller danser », qu'on vient d'entendre, qui était une reprise de Sylvie Vartan. C'était pas une traduction,
c'est
ça. C'était une chanson française de Sylvie Vartan. Et « Ça va, je t'aime », qui était une reprise de France Gall. Je pense qu'on n'entendait même pas les originaux ici, même si c'était
peut-être
en français.
Celle de Sylvie Vartan, France Gall, peut-être, je ne sais pas.
Donc ça, ces trois-là, je pense qu'elle était à Jeunesse d'aujourd'hui aux 2 semaines, à peu près. Pas mal tout le temps.
Puis c'était une fille qui était très, très belle.
Ouais,
elle est encore assez éblouissante. Là, à 80 ans, je l'ai vue récemment au spectacle du Cirque du Soleil. Je suis même allée lui parler parce qu'on a été collègues de travail.
Okay.
Elle était vêtue de rose, beau sourire. Vraiment, je lui ai offert mes meilleurs voeux pour ses 80 ans. Mais elle n'est jamais passée inaperçue.
Non, ça, c'est certain. Je pense que,
pour le meilleur et pour le pire.
Oui, elle était très télégénique en partant. Je pense que c'est un peu aussi ce qui l'a aidée.
Ouais. À l'époque, elle avait les cheveux noirs,
les cheveux
longs.
Noirs,
elle était
long,
un peu dans le style de Céline Lomaise. Très, très belle.
Oui, oui. Je pense qu'elle avait vraiment tout ce qu'il fallait pour fonctionner dans ce monde-là de musique
pour
pop.
Pour pogner, entre guillemets.
Oui, et puis, puis comme on disait tantôt, Dennis Pentis, il emmenait large. Lui, il était bien connecté. Il allait chercher la chanson qui venait d'être lancée à New York ou à Los Angeles. Il la traduisait tout de suite ou il la faisait traduire par quelqu'un rapidement pendant la nuit sur un coin de table. Il y avait quelqu'un pour l'enregistrer. Le lendemain, il allait porter au poste de radio.
Money!
Et ça rend... Oui. La semaine après, elle passait à Jeunesse d'aujourd'hui. Donc, le lundi, tout le monde voulait le disque. Ça roulait à l'époque, ça allait vite. Puis on avait
encore envie, lui, Denis?
Oui. Puis je ne sais pas quel âge il a, mais sûrement au
peut-être
moins...
Peut-être à peu près l'âge de Michel,
un peu plus
âgé.
Peut-être
même.
82 ou 83. Je vais faire une chronique sur lui à un moment donné.
Bien, c'est ce que je me disais, ça vaudrait la peine.
C'était mon but au départ. En regardant du Jukebox, puis j'ai vu Michel Richard là-dedans qui comptait un peu comment ça se passait. Je me suis dit, bon, il y a déjà un sujet là. Ouais. C'est important. D'ailleurs, je pense qu'il serait temps qu'on écoute des extraits. Hein.
Oui.
Ça vaut la peine.
Pas de savoir où je vais. Ça va.
Dans le temps. Moi, c'est les boîtes à gogo. Là, oui. La première chanson que j'ai entendue d'elle, c'est cette chanson, les boîtes à gogo. Et puis, il y a eu ce clin d'œil à l'Expo 67.
Racontez-nous ça. Mais vous savez que les boîtes à gogo, c'était une traduction d'une chanson du groupe de Dave Clark Five.
Ah,
qui marchait beaucoup à l'époque.
Oui.
La chanson s'appelait « At the Scene ». Fait que cherchez ça sur YouTube.
Pas rapport avec les boîtes à gogo. «
At the Scene » de Dave Clark Five, vous allez reconnaître les boîtes à gogo. Et là, on a entendu « Main dans la main », celle que je vous ai mentionnée tantôt, qui avait été son premier succès, dans le fond, qui a vendu 25 000 exemplaires en 1960. « Quand le film est triste » de 1962. « Je suis libre » 1964. « Ça va, je t'aime » 64 aussi. Les boîtes à gogo, 1966. Je serai là, qui est une traduction de I'll Be There. C'est un groupe de Motown. C'est Supreme qui a fait ça. Je sais qu'il y a plusieurs groupes Motown qui faisaient les mêmes chansons.
Il y a eu plusieurs reprises.
En tout cas, tout le monde la connaît. Un jour, la chanson d'Expo 67. Ça, il faut que je fasse une petite parenthèse là-dessus. Ça vaut la peine. Tout le monde connaît la version Donald-Lautrec, bien entendu. Chanson qui a été écrite par Stéphane Venn, paroles et musique. Apparemment, c'est pas juste apparemment, là, je pense qu'il y a plusieurs sources qui le mentionnent, Monsieur le maire Jean Drapeau était très déçu d'entendre cette chanson-là parce qu'il disait « Il n'y a aucune place dans la chanson qui dise Montréal et qui parle de l'Expo 67. C'est quoi cette affaire-là? On ne peut pas choisir ça comme thème. » Fait que finalement, quelqu'un l'a fait enregistrer par Michel Richard. Puis d'ailleurs, on entend au début « Expo, Expo à Montréal ». Ça a l'air plus d'un slogan. Ça a l'air plus d'un slogan publicitaire qu'une chanson. Fait que c'est pour ça qu'elle a enregistré cette version-là. Mais d'ailleurs, tout le monde connaît seulement la version de Donald-Lautrec.
En tout cas, c'est celle-là qu'on connaît
mieux. Qui a été vraiment adoptée par tout le monde. Donc, en 1965-66, elle a animé « Jeunesse d'aujourd'hui » avec Pierre Lalonde. Saviez-vous ça?
Ah non, ben non.
Pendant l'été. Peut-être
oui?
qu'on le regarde de moins l'été. Moi, je ne me souviens pas de ça non plus, là, mais parce qu'habituellement, c'était Joël Denis qui
en 66,
animait.
Moi, j'étais sur la terre, là, mais j'étais très jeune.
Moi, en 66, c'était à peu près le seul, comme je vous le disais tantôt, c'était le seul moment où on pouvait voir les artistes chanter leurs chansons parce qu'il n'y avait pas de YouTube à l'époque puis de tout ça. Là.
Ah, c'était un rendez-vous incontournable.
Pas de Wi-Fi non plus, c'était une antenne sur le toit de la maison.
Ah,
on pouvait pas enregistrer.
Un single des Jackson.
Jackson? Ouais. Ah, je me souviens pas que c'était eux autres. OK. Donc, oui, on regardait Jeunesse d'aujourd'hui tous les samedis parce que c'était le seul moment où on pouvait voir nos artistes.
Saturday Night Fever.
Ouais, ben ça, c'est un peu plus tard.
Oui, mais c'était l'esprit.
Ouais, c'était l'esprit du samedi soir, qu'il fallait regarder la musique qu'on aime. Elle a été désignée chanteuse la plus populaire au Festival du disque, en 66 aussi. En 67, comme je l'ai dit, elle a interprété « Un jour, un jour », un petit peu à la demande de M. le maire à l'époque. Et elle aurait aussi, cette année-là, fait une tournée des bases militaires canadiennes et américaines.
Elle aurait ou elle a?
D'après, aujourd'hui, des fois, je me méfie un peu des infos qu'on trouve
mais
un peu
mais dans Jukebox, on en parle, je pense, dans le documentaire qui est très bien
fait. C'est pour ça que je le mentionne quand même avec prudence, là, mais... Donc, elle aurait quand même visité plusieurs pays en faisant ces tournées-là parce qu'elle a été en Afrique, au Pakistan, en France, en Grèce, en Allemagne, quand on sait qu'Elvis Presley n'est jamais sorti des États-Unis.
Oui, à cause du colonel Parker.
Notre Michèle Richard, elle a voyagé beaucoup. Et elle a été élue Miss Radio-Télévision 1967.
Elle en a gagné des lauréats, des prix.
Oui, elle était très, très, très en vue à l'époque. En 1968, elle a reçu le titre de meilleur vendeur de l'année au Canada par le MIDEM de Cannes.
Oui.
MIDEM, j'allais voir, ça veut dire le marché international du disque et de l'édition musicale, qui avait été créé cette année-là, en 1967. Donc, elle a été la première, je pense, elle a été vraiment honorée à ce festival. En 1970, on dit qu'elle participe à nouveau à la tournée Musicorama, parce qu'elle l'avait fait avant, je pense qu'en 68. Mm-hmm. Musicorama, vous ne vous souvenez probablement pas de
non.
ça.
Non.
Moi, en 70, c'était une tournée où plusieurs artistes qui passaient à Jeunesse d'aujourd'hui faisaient une tournée pendant l'été.
Les vedettes.
Puis elle a joué un peu partout dans les petites villes. Ah. Je me souviens d'être allé une couple de fois. C'était des artistes, justement, de l'époque, là, Michel Richard, Paolo Noël.
Ils étaient
accueillis,
j'imagine.
Oui, c'était les vedettes, les idoles. Et elle a interprété, en 70, elle a interprété le rôle, je ne me souviens pas de ça, de Chantal Poirier dans le téléroman Montjoie. Je ne regardais pas ça, donc je ne
connais pas.
Ah,
moi, je me souviens de Montjoie, mais pas de Michel Richard.
OK, c'était peut-être un petit rôle, je ne sais pas. Donc, elle commençait déjà à avoir des petits rôles.
Je me souviens d'elle dans La Guêpe, là, elle avait un panache sur la tête, le film de Gilles Carle.
Oui, ça, c'était un petit peu weird.
Un petit peu malaisant.
Oui.
Ah, oh, La Postière, oui.
La
Merci,
postière.
Mathieu.
Oui, oui, oui. OK, oui. En 60...
Mais La Guêpe, c'est un film de...
Oui, aussi.
De Gilles Carle aussi, mais il n'y avait pas Michel dedans.
OK. En 71, elle a co-animé avec Michel Louvain l'émission Zoom en liberté à Radio-Canada.
Ah, avant Garden Party,
Je pense qu'il y a certaines années, j'ai perdu de vue un peu à ces âges-là.
Ah non, Garden Party, c'était Serge Laprade.
C'était Serge Laprade. C'est un petit peu différent.
Mettons que la chimie a moins opéré.
Ça s'est moins bien passé, d'après ce que j'ai entendu. Et elle a eu, ça c'est important, ça m'avait échappé, elle a obtenu le premier rôle au cinéma dans le film « L'Explosion », qui avait été tourné en Sicile avec Mylène de Mongeau.
Wow.
Et d'ailleurs, je vous ai gardé pour la fin, parce que j'avais déjà entendu cette chanson-là, mais c'était un petit peu vague dans mes souvenirs. Elle a interprété la chanson thème de ce film-là, qui s'appelle « Vivre au soleil ». Et qui a été écrite par Henri Salvador.
C'est ma chanson préférée, Michel
Richard.
C'est
bon. Et là, vu qu'on commence l'été, je voulais garder pour la fin
Quel
de la
bon
chronique.
Choix.
Je trouve que ça va vraiment nous amener.
Vous l'avez l'affaire, d'ailleurs.
Ah, ben, je sais. Ah. Mais ça m'a pris 2 mois, pondre ça. Donc, j'ai mis les efforts nécessaires. Elle a joué aussi, en 1975, elle a joué dans la comédie musicale « Madame mon père ». avec non. Gilles Latulippe au Théâtre des Variétés.
Okay. Fait,
j'imagine que c'est une comédie d'été. Donc, c'est peut-être qu'il y a du monde qui l'ont
Attention,
vu,
la belle-mère!
Oui, ça devait être probablement une histoire un petit peu de triangle amoureux.
Isabelle, vous n'êtes pas trop larguée, là?
Oui, il doit avoir.
Non, ça va, ça va.
On doit vous en apprendre un peu ce matin, quand même. Là.
Quand même, oui.
Oui. Là, sa carrière a commencé à changer un peu dans les années 70, 80, tout ça. Il faut se remettre aussi à l'époque, dans les années 60, c'était correct, c'était très accepté, très bien vu. On trouvait ça normal que tous les artistes interprètent en français des chansons qui marchaient déjà en anglais. Peut-être aussi parce que souvent, c'était la seule version à laquelle on avait accès. Il n'y avait pas de Spotify et tout ça à l'époque. C'est une question d'époque, mais il me semble que c'était tout normal. Tous les groupes qui passaient à Jeunesse d'aujourd'hui, les Sultans, les Classels, tout ça, la plupart des chansons qu'ils faisaient, c'était des traductions.
Les Baronets
faisaient des traductions des
les
chansons
Beatles.
Des Beatles. Donc, on trouvait ça normal. À la fin des années 60, un peu, puis surtout au début des années 70, là, c'est devenu non, on ne fait pas ça.
Ah,
on
ne
sait plus.
C'était mal vu, là.
Là, c'était mal vu. Il fallait écouter les chansons originales. Donc,
on s'est peut-être rendu compte aussi des droits, il fallait payer des droits aussi.
Il y a pas, oui, probablement. Oui,
ça devait peser dans la balance.
C'est important, oui, ça devait peser dans la balance. Mais je pense aussi que les gens commençaient à réaliser aussi que souvent, la qualité d'enregistrement des originaux qui avaient été enregistrés dans un studio à Los Angeles ou à New York ou à Londres, ça sonnait un peu mieux que ce que dans le sous-sol de oui. Dennis Pantis.
Puis on aimerait aussi entendre nos histoires par des auteurs, compositeurs, interprètes
aussi,
ou des autrices,
effectivement,
compositrices.
Donc, dans les années 70, là, on a commencé à avoir des chansons originales
Stéphane
populaire en français. Il y en avait avant, mais c'était plus chansonnier. Mm-hmm. Il y avait deux mondes à l'époque. Hein. Tu avais la jeunesse aujourd'hui, puis tu avais les chansonniers. Ouais. Ça se mêlait pas vraiment.
Tu avais l'éveillé Vigneault, Félix
ça.
Leclerc,
mais
Robert Charlebois.
Quand, exemple, Jean-Pierre Ferland a sorti Jaune, oh, là, il y a eu un tournant. Quand Robert Charlebois avec Lindbergh. Là, on a commencé à écouter des chansons originales, vraiment typiquement québécoises, pas à la française, des chansons à nous autres.
Qui avaient peut-être des influences musicales
américaines.
Américaines.
Le son était plus intéressant pour cette génération-là. Donc, tout le reste, les traductions, c'est devenu non. Là, ça ne nous intéresse plus. Donc, peut-être que Michel Richard, à cette époque-là, sa popularité commençait à baisser parce que le monde n'avait pas envie d'entendre « Je vais survivre », qu'on avait entendu à « Will Survive » à tour de
ça
bras par Gloria Gaynor. Ça a peut-être été un succès quand même, mais c'était plus ça.
Ouais.
On ne l'avait plus autant. Là. Donc, je pense qu'à cette époque-là, elle a commencé à se tourner un peu plus vers le musical. Elle a continué à travailler tout le temps, par exemple. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Le monde pense qu'à un moment donné, Michel Richard, on ne la voyait plus parce que jeunesse d'aujourd'hui n'existait plus.
Elle faisait
whatever.
Des spectacles.
Elle travaillait beaucoup. Elle faisait des spectacles.
C'est une professionnelle jusqu'au bout des ondes. Elle dansait, chantait.
Effectivement. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je voulais mentionner quand même que les gens, à un moment donné, on en parlait un petit peu tantôt aussi, hors d'onde, des artistes comme Michel Louvain, tout ça. Leur grosse vague de popularité a baissé à un moment donné. Et ils sont redevenus, à un moment donné, les gens se sont retournés, on se dit, hey, finalement, c'était du bon monde.
Et c'était pas nécessairement le public qui les avait aimés au départ.
Non, il y a un nouveau public qui s'est intéressé à eux. Donc, on
est prêt à entendre ou presque la chanson de Henri Salvador interprétée par Michel Richard.
Interprétée par Michel Richard, la chanson thème du film L'Explosion, Vivre au soleil. Pas ton...
Ah, oh, quelle belle chanson! Michel Richard, Vivre au soleil, une chanson d'Henri Salvador qu'on a découvert dans le film L'Explosion.
Oui, oui, oui.
Je ne me souviens pas qui avait réalisé ce film-là,
L'Explosion. Non, je n'ai pas pris en note, j'aurais peut-être dû, mais quand même, moi, c'était surtout la chanson.
Ben
je
voulais focusser
sur la chanson, comme je disais tantôt. C'était un petit peu un plaisir coupable. Moi, à l'époque, j'écoutais du Pink Floyd, Led Zeppelin, des groupes de musique progressive,
ouais,
King
ouais.
Crimson, tout
vous
ça.
Assumez
Vivre
moins...
au soleil, j'étais pas à l'aise. Mais c'est vraiment bon.
C'est vraiment bon. C'est bon. Oui, c'est délicieux. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été,
été à tout le monde,
rempli de plaisir. Isabelle, on va se retrouver le 1er juillet. Daniel, on vous dit à la prochaine.
Oui, oui.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Catherine Leduc et sa chanson « Ce qui me brise » m'ouvre. Et si vous avez aimé, sachez qu'elle sera sur la scène Rogers ce soir à 19h.
Profitez-en, c'est gratuit, il va faire beau en plus. Devant moi, Roxane de la Sablonnière. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Roxane, aujourd'hui, le titre de votre chronique « Naviguer entre deux mondes » comprendre l'intégration identitaire, une chronique que vous avez préparée en collaboration avec Eya Ousseni, étudiante au bac en psychologie, et Myrim Safi, étudiante aussi au baccalauréat, cette fois en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de l'intégration identitaire, Roxane?
Oui, Hélène, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autrice Kim Thuy a pris la parole sur le plateau de Tout le monde en parle.
Ouais.
Puis elle parlait avec beaucoup d'émotion de sa peine d'amour pour le Québec.
Ça avait fait des vagues.
Exactement. Et puis, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes immigrantes peuvent sentir une peine d'amour pour le Québec puis se sentir moins acceptées, par exemple, ou moins valorisées? Donc, c'est vraiment une question qui est importante parce que elle disait qu'elle ne se sentait plus chez elle, pas qu'elle ne se sentait pas chez elle nécessairement, mais elle sentait que c'était moins accueillant, qu'il y avait plus de restrictions, donc elle sentait pas qu'elle avait sa place à cet effet-là. Dans les politiques d'immigration, parce que ces politiques-là peuvent jouer un rôle important, on parle au Québec de l'interculturalisme. Donc, c'est un modèle qui repose sur un socle commun, c'est-à-dire que la langue française est importante. Aussi sur l'idée que la participation citoyenne, c'est important afin de construire une société avec des espaces partagés, puis une culture commune. Donc, c'est un modèle qui vise la cohésion sociale. Mais certaines personnes immigrantes peuvent avoir l'impression qu'il y a certaines lois, certaines réglementations qui deviennent de plus en plus restrictives.
Mm-hmm.
Par exemple, si on prend la loi de la laïcité de l'État, la loi 21, il y a eu de vifs débats. Il y a certains qui voyaient une mesure d'égalité, mais il y en a d'autres qui voyaient des contraintes identitaires importantes. On peut dire la même chose des modifications au programme de l'expérience québécoise dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Donc,
PEC.
Exactement, le PEC. Donc, même si... l'interculturalisme se veut une politique qui est ouverte. Il y a eu beaucoup d'ajustements politiques qui peuvent parfois donner l'impression que l'intégration devient plus exigeante, que certaines identités qui sont moins reconnues. Donc, ça illustre un paradoxe. Les immigrants et immigrantes veulent s'intégrer et contribuer, mais ils ont aussi besoin de se sentir valorisés. Quand cet équilibre se rompt, c'est un équilibre fragile, on s'entend, bien, il est possible qu'il y ait une peine d'amour collective qui émerge. Donc, parce que le processus d'intégration ne repose pas seulement sur les épaules des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, mais aussi ça se construit des deux côtés.
En dehors de la politique, certains organismes comme le CSAI, qui est le Centre social d'aide aux immigrants, offre un programme de jumelage interculturel, soit une mise en relation entre des nouveaux arrivants et des Québécois à travers des activités collectives, des activités culturelles, sociales. Alors, je me demandais, de ce fait, s'il existe un lien entre la participation et l'intégration identitaire.
Oui, en fait, c'est vraiment important de participer à un groupe ou à une nouvelle culture quand on veut s'intégrer, quand on veut sentir qu'on fait partie de la nouvelle société ou de la nouvelle communauté. Puis souvent, lorsqu'on réalise, par exemple, des activités qu'on pourrait dire typiques d'un groupe d'accueil, ça favorise l'identification à ce même groupe. Donc, l'identification, c'est quoi? Ça se définit comme la connaissance ou la reconnaissance qu'on appartient à un groupe. Donc, on y attache une valeur, puis une importance, ce qui est émotionnel aussi. Donc, par exemple, quand on participe à une culture, on pourrait signaler des nids de poules, donc on est engagé, on pourrait payer ses impôts, on pourrait participer à différents événements culturels. Donc, le fait de participer va renforcer ce sentiment d'appartenance au nouveau groupe. Donc, on a même fait une étude avec une de mes collègues à l'Université de Montréal, Diana Cardenas, qu'on a étudié justement ce prototype national, puis l'importance de participer à une culture. Puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris plusieurs groupes d'immigrants et immigrantes, on les a séparés aléatoirement dans différents groupes. Donc, certains visionnaient un match de hockey qui gagnait là, le match, d'autres visionnaient une partie de basketball. Et puis, on s'est rendu compte que ceux qui ont visionné le match de hockey s'identifiaient plus fortement à la culture québécoise.
Avec les Canadiens de Montréal,
j'imagine. Oui, exactement. Oui. Oui, désolée, je ne l'avais pas précisé. C'était une évidence pour nous. Là.
Oui.
Donc, ils s'identifiaient plus fortement. Donc, le simple fait de visionner un extrait d'un match du Canadien de quelques minutes renforçait l'identification.
Ah, oui. On l'a vu là, avec tous les matchs que les Canadiens ont joués. Il y avait une fièvre, il y avait des gens de tous les horizons. Là. On en a vu des nouveaux arrivants.
Exactement. Et c'est là qu'on dit « on a gagné
ouais. »,
même si…
On va gagner.
Oui,
on va gagner,
même si nous, personnellement, on ne joue pas.
C'est
donc,
vrai.
Donc, c'est quelque chose qui est important pour notre groupe.
On est partie prenante d'un groupe. Alors, c'est vraiment intéressant, Roxane, mais il faut aussi mentionner qu'un travail d'intégration, c'est souvent long, c'est souvent compliqué. Alors, au-delà des politiques publiques et des débats de société, qu'est-ce qui se passe dans la tête et même dans le cerveau d'un immigrant, d'une immigrante qui vit ce processus d'intégration identitaire?
Oui, c'est vrai, Hélène, c'est un processus de longue haleine, ça prend du temps. Donc, il y a des processus cognitifs, cérébraux, très concrets qui sont présents. On pourrait parler, par exemple, et je ne vais pas parler de tous ces processus, mais il y aurait la mémoire autobiographique qui sert de fondation. Donc, les souvenirs, par exemple, du pays d'origine pourraient aider à donner un sens aux nouvelles expériences qui sont vécues dans la société d'accueil. Il faut aussi, lorsqu'on arrive dans une nouvelle société, une nouvelle culture, faire preuve de beaucoup de flexibilité cognitive. Donc ça, c'est la capacité de passer d'un cadre culturel à un autre. Donc, par exemple, si une personne qui est nouvellement arrivée ici, elle pourrait devoir s'adapter rapidement à des nouvelles normes sociales, comme le fait de saluer quelqu'un en s'embrassant ou bien de tutoyer mm-hmm. une personne qu'elle côtoie alors qu'elle est habituée de vouvoyer les gens. Donc, ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de régulations émotionnelles qui peuvent être impliquées aussi dans ce processus-là parce qu'on doit souvent gérer des conflits en lien avec l'identité, des tensions aussi parce que c'est pas facile de passer d'un cadre culturel à un autre. Il y a aussi de la recherche qui a été faite sur la plasticité cérébrale qui va dans ce sens. Il y a même des chercheurs qui ont fait de la recherche sur l'imagerie cérébrale. Donc, c'est une technique d'imagerie, le IRMF, qui ont montré que les individus biculturels, c'est-à-dire qui avaient deux cultures, une personne qui arrive ici puis qui s'approprie, pas qui s'approprie, mais qui intègre une nouvelle culture, donc, il y aurait des réseaux neuronaux qui seraient activés différemment selon le cadre culturel auquel ils vont penser. Donc, par exemple, lorsqu'on leur demande de penser à la représentation du soi dans un contexte culturel chinois versus occidental, c'est pas le même endroit du cerveau qui va s'activer.
Hey, ça va jusque-là.
Ça va jusque-là. Et ce n'est que le début.
Oui.
Je pourrais en dire beaucoup plus aussi.
Bien, j'espère que vous allez nous en dire beaucoup plus, mais pas pour l'instant, parce que vous nous quittez pour quelque temps, chère Roxane. C'était votre dernière chronique. Je vous remercie d'ailleurs pour cette chronique, pour ces éclairages. Ce qu'on tient, c'est que l'intégration identitaire, c'est un processus à la fois social, politique et profondément humain. Et il y a comme une pause là que vous allez prendre de votre vie médiatique. En tout cas, à Canal M, on ne vous reverra pas cette saison qui s'en vient, la nouvelle saison d'été, ni à l'automne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez revenir à l'hiver 2027. On va s'ennuyer, mais qu'est-ce qui nous console, c'est que vous reviendrez parce que vous êtes importante dans l'équipe, Roxane de la Sablonnière.
Bien, merci beaucoup.
Merci, Roxane. Et puis, bien, je vous souhaite un bel été, un bel automne.
Merci.
J'ai pensé à toi qui pensais à lui, mais je t'en veux pas pour ça. J'aurais dû te garder, mais j'ai compris. Et tu étais trop loin déjà. J'aurais fait la même chose si j'étais toi. J'ai pensé avoir l'air fort, faire comme si nous deux c'était rien. Si tu me voyais broyé au bord, tu comprendrais que je vais pas bien. J'ai voulu mourir, mais j'ai pas le droit.
Connaît trop bien une chanson de Gab Bouchard qui, imaginez-le, Hélène, sera tout de suite après Catherine Leduc sur la même scène, la scène Rogers, ce soir à 21h.
Wow, belle soirée en perspective! Alors, un rapport publié au Manitoba, c'est une nouvelle que j'ai trouvée sur le site de Radio-Canada Manitoba, donc conclut que le système de soutien aux adultes en situation de handicap est profondément défaillant. Après 6 mois de travail, le comité de pilotage dénonce des services fragmentés, des critères d'admissibilité fondés sur les diagnostics plutôt que sur les besoins réels, un manque de coordination entre les ministères et des inégalités pour les régions rurales. Le rapport propose une douzaine de recommandations, notamment baser l'accès aux services sur les besoins des personnes, améliorer l'équité pour les régions rurales, revoir le financement et les options de logement, mieux protéger les droits des Autochtones. Cette démarche trouve son origine dans des plaintes déposées en 2016 par des jeunes Manitobains en situation de handicap, dont Tyson Sylvester et Amelia Hampton, qui dénonçaient la perte de services à l'âge adulte et des pratiques discriminatoires. Leurs actions ont mené au lancement d'un projet pilote en 2022, puis à la rédaction du rapport. Malheureusement, en 2024, Amelia Hampton est décédée, mais ses parents ont pris la relève et portent le flambeau. En son honneur, les défenseurs des droits des personnes handicapées considèrent ce document comme une étape historique et demandent au gouvernement de mettre en œuvre rapidement les recommandations. Le gouvernement manitobain affirme étudier le rapport et s'est engagé à travailler à l'amélioration du système et dispose de 6 mois jusqu'au 16 décembre 2026 pour présenter un plan d'action. Sinon, les plaignants pourraient demander une audience officielle devant la Commission des droits de la personne du Manitoba. Parlons maintenant de golf. C'est un texte de Robert Walensky. Que vous découvriez le système universel du handicap ou que vous cherchiez simplement à mieux comprendre comment votre handicap est calculé, maîtriser quelques termes clés peut faire toute la différence. Du handicap de parcours au double bogey net, ces concepts permettent d'assurer une consignation équitable et uniforme des scores. Alors, voici des termes liés au handicap. Ici, on parle de handicap au golf, que tout golfeur et toute golfeuse devrait connaître cet été. Votre index de handicap ajusté en fonction du parcours et des tertres de départ que vous utilisez. Les parcours ne se jouent pas tous de la même façon et cet ajustement fait en sorte que vous avez droit au bon nombre de coups pour chaque partie. Êtes-vous un golfeur, vous, Mathieu?
Absolument pas.
Moi non plus.
Je vais de temps en temps driver des balles, comme on disait.
Oui. Ou on joue à 4, là. Alors, si on fait un moins bon coup, ça paraît mieux ou ça paraît moins mal.
On repart de la balle qui est la plus loin.
Oui, c'est ça. Il y a un nom pour ça, mais ça m'échappe. Parmi les 5 termes liés au handicap au golf, différentiel de score, trou non joué, double bogey net et allocation d'index de coups. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Sideways. C'est un film qui parle d'amour, de chagrin d'amour et de vin, d'amitié. C'est un film formidable et la bande originale de ce film aussi est formidable. En voici un extrait. Sideways, c'est en fait une pièce tirée du film Sideways, pièce musicale bien entendu, film de 2004 d'Alexander Payne, excellent réalisateur, et qui met en vedette Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Sandra Oh, Virginia Madsen, film à voir et à revoir. On a parlé hier du Walani, mais finalement il fallait dire kangourou. On s'est un petit peu gouré, pas moi nécessairement, là, c'est que on nous avait dit ce n'est pas un kangourou, c'est un walani, mais c'est la même chose. Mais un walani, c'est plus petit. Mais là, on parle du kangourou, le kangourou roux qui s'appelle Joey, qu'on a prénommé Joey. Alors, bien, bonne nouvelle, les équipes du ministère de la Faune ont mis fin à la cavale du kangourou de Boucherville. Hier, vers 18 heures, le marsupial repéré dans un champ a été endormi par ses équipes et serait en route vers le zoo de Green Bay. J'imagine qu'il est rendu, selon le SPCA, Galahad, dis-je bien. Le kangourou, baptisé Joey par des internautes, avait été aperçu à plusieurs reprises depuis vendredi le long de l'autoroute 20 à Boucherville. Déambulant dans les champs, la SPCA Galahad, spécialisée dans la protection des grands animaux, a annoncé la nouvelle de la capture sur Facebook. Nous lui souhaitons un avenir paisible dans un sanctuaire entouré de congénères et des soins dont il a besoin, a écrit l'organisme.
Yeah, 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 yeah. On n'a pas peur du danger. Même si leur masque tombe, va leur dire que j'ai changé. Ce soir mon masque tombe, tombe. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qui sont les vrais? Qui sont les faux? C'est qui nous fraude? Rien ne m'étonne, crois-moi, rien ne m'étonne, crois-moi. Je garde la
la détente, crois-moi vers la détente. Même si j'ai perdu des proches, perdu des frères, j'ai connu l'enfer. Rien ne me stresse, rien ne me stresse.
Les masques tombent, je vois que des sourires crispés. Montrer sa vraie nature ici c'est risqué. Mais on a peur de rien, dans leur visage on rira. Si je prends la pose et fais chi, je les fais pas pour les rats. Nah, ils m'ont vu surf, pas même capable de me donner de l'eau. Et maintenant qu'ils voient que j'ai le juice, ils ont tous soif. Ils sont tous saves, ils rêvent de m'avoir sous le bout de leurs lèvres. Comme les blancs avec le moins
N. On n'a pas peur du danger. Même si leur masque tombe,
si leur masque tombe,
à leur dire que j'ai changé. Ce soir mon masque tombe. Qu'est-ce qui nous reste?
Qu'est-ce qui nous
manque? Qu'est-ce qui nous faut? Qui sont les vrais? Qui sont les faux? C'est qui nous fraude? Rien ne m'étonne, crois-moi. Je garde la détente, crois-moi. Même si j'ai perdu des proches, perdu des frères, j'ai connu l'enfer. Rien ne me stresse, rien ne me stresse.
On est deux pour le show, tout pour la famille. Et rien pour les faux, j'ai dit un pour la monnaie. Deux pour le show, tout pour la famille. Et rien pour les faux, j'ai dit un pour la monnaie. Deux pour le show, tout pour la famille. Et rien pour les faux, j'ai dit un pour la monnaie. Deux pour le show, tout pour la famille. Et rien pour les faux.
Cette chanson d'Irden Exandus, le titre c'était Danger. Sachez qu'il sera aussi ce soir au pub Brasseur de Montréal à 17h.
Oui, à l'occasion des Franco, il y en a beaucoup de spectacles aujourd'hui. Alors, on va en profiter. Si vous le pouvez, faites-le parce qu'il va faire beau. Mais lui, c'est à l'intérieur quand même. Et il y en a plein d'autres spectacles. Vous n'avez qu'à aller sur le site des Franco. francomontréal.com. Il est vraiment très, très bien fait hein, parce que ça y va par date, lieu, les séries, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant. Alors, bien, c'est pas mal terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Mathieu, ça a bien été. On a parlé de Michel Richard, oui. On a parlé de kangourou, de patates, de pommes de terre. C'est vraiment une émission qui traite de tous les sujets. Alors, on va se retrouver demain, jeudi déjà. Ça va trop vite. Et là-dessus, je vous souhaite une agréable journée. Merci Mathieu Tessier à la régie. Et ici Hélène Denis qui vous souhaite encore une fois une belle journée.